Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui. Raissa Girondin et Jacques Aristide pour vous accompagner à la une de l'actualité en ce jeudi 2 mai.
Du nouveau dans le massacre d'Ogossagou au Mali, l'ONU parle d'une attaque planifiée, organisée et coordonnée.
Au Bénin, au moins un mort dans les affrontements post-électoraux, des centaines d'opposants à nouveau dans les rues de Cotonou.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro appelle l'armée à combattre tous les putschistes. L'opposant Juan Guaido appelle à une grève générale.
Ici aux États-Unis, le secrétaire d'État à la justice William Barr refuse de se rendre à l'audition devant la commission judiciaire de la Chambre dominée par les démocrates.
Ne manquez pas non plus vos rubriques économiques et sportives, mais tout d'abord, le journal.
Direction le Bénin, deuxième journée consécutive de tensions à Cotonou. Des manifestations se sont poursuivies aujourd'hui avec des actes de violence. On dénombre un mort et des blessés. On évoque également des dégâts matériels importants après des affrontements entre protestataires et forces de l'ordre. Le compte-rendu de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
La calmie observée mercredi à Cotonou n'aura duré que quelques heures. La violence et les destructions de biens publics et privés a repris de plus belle. D'abord dans le quartier de l'ancien président Boniaï, avant de se propager un peu partout à Cotonou. Fait étrange, la rue menant au domicile de l'ancien président a été barricadée, dit-on mystiquement, par des hommes, talismans et gris en main. Ils y font des rituels pour, disent-ils, barrer la voie aux forces de l'ordre. Ils sont quelques meneurs à brûler des pneus, à lancer des jeux des pierres et à bloquer la circulation. Ils sont tout de même encouragés par quelques passants qui leur demandent d'aller jusqu'au palais de la présidence. Aurélien Aguenucci, le ministre des Affaires étrangères, a expliqué que certains des jeunes délinquants ayant semé le trouble mercredi ont été arrêtés. On ignore tout de même le nombre de personnes appréhendées. La Cour constitutionnelle procède ce jour à la proclamation définitive des résultats de Cotonou. Ginette Le Adandé pour VOA Afrique.
On y reviendra dans notre partie magazine.
Au Mali, le massacre fin mars de près de 160 habitants du village Peul d'Ogossagou, dans le centre du pays, a été une attaque planifiée, organisée et coordonnée et pourrait être un crime contre l'humanité. C'est ce qu'affirme aujourd'hui la mission de l'ONU dans ce pays. Le point avec Idriss Fall.
Selon les conclusions préliminaires de la mission d'enquête de la MINUSMA, le 23 mars, au moins 157 membres de la communauté Peul d'Ogossagou ont été tués par un groupe composé d'au moins une centaine d'hommes armés, identifiés comme des chasseurs traditionnels d'Ozo et accompagnés par une dizaine d'hommes en tenue militaire et d'autres en tenue civile qui ont, toujours selon la MINUSMA, mener une attaque planifiée, organisée et coordonnée. Une mission d'enquête a été dépêchée à Ogossagou du 25 au 29 mars. Selon la MINUSMA, les atteintes aux droits de l'homme documentées à Ogossagou pourraient être qualifiées de crimes contre l'humanité. Les auteurs de telles atrocités doivent être tenus responsables de leurs actes devant la justice, a déclaré le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif, cité dans le communiqué.
Ailleurs, sur le continent, au Nigeria, un groupe de 150 hommes armés à moto a tué au moins 15 personnes dans deux villages du nord-ouest du pays, volant du bétail et brûlant des maisons. L'attaque s'est déroulée hier après-midi dans les villages de Gobirawa et Chakawus, dans l'état de Katsina, d'après la porte-parole de la police régionale, Gambo Issa.
Au Soudan, une immense foule de manifestants déferle aujourd'hui devant le QG de l'armée à Khartoum pour réclamer un pouvoir civil répondant à un appel d'une marche d'un million, marche qui a réuni plus de contestataires que lors du même appel il y a une semaine. Les ponts et les rues menant au complexe militaire dans la capitale étaient noirs de monde alors que les négociations entre l'armée et les représentants du mouvement de la contestation sont au point mort.
Au Sénégal, le verdict du procès du chef religieux musulman Cheikh Bétio Thioune et d'une vingtaine de ses disciples sera rendu le 6 mai prochain. Claire Morin-Gébourg.
Le procès est rentré dans sa phase de délibération, a annoncé Thierno Nyang, le président de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Mbour. Le procès de Cheikh Bétiou Tioune est très suivi au Sénégal. Le chef religieux musulman et certains de ses disciples sont poursuivis pour le meurtre de deux d'entre eux en 2012. Très médiatisé, ce procès s'est ouvert le 23 avril en l'absence de Cheikh Bétiou Tioune. Selon sa défense, il est en soins intensifs en France. Le procureur Youssou Diallo avait requis lundi une peine de travaux forcés à perpétuité contre lui et 16 des prévenus. Les avocats des parties civiles ont réclamé 3 milliards de francs CFA en dommages et intérêts. Les avocats des prévenus ont de leur côté réclamé la relaxe dans ce dossier où il n'y a nulle preuve, selon eux.
Au Maroc, le procès des assassins présumés de deux jeunes touristes scandinaves décapités dans les montagnes de l'Atlas au nom du groupe État islamique a été renvoyé au 16 mai, juste après son ouverture aujourd'hui à Salé, la ville jumelle de la capitale Rabat. 24 accusés, dont les trois meurtriers présumés, ont brièvement comparu devant la chambre criminelle de la cour d'appel pour apologie du terrorisme. Ceux qui sont impliqués directement dans le crime risquent théoriquement la peine de mort.
Appel d'une centaine de personnalités pour la libération d'un enquêteur de l'ONU détenu en Tunisie. Monsef Kartas, expert de l'ONU, qui travaille sur les violations de l'embargo sur les livraisons d'armes vers la Libye, est toujours en détention après avoir été arrêté en mars dernier à son arrivée à l'aéroport de Tunis. Le ministère de l'Intérieur tunisien avait alors indiqué que l'expert et un autre Tunisien arrêté en même temps que lui étaient soupçonnés d'espionnage au profit de parties étrangères. Sans plus de précision, sa famille et ses proches en Allemagne ont déploré n'avoir eu aucun contact avec lui depuis sa libération, sa détention dans un communiqué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, au moins 8 migrants africains sont morts de complications liées à des diarrhées contractées dans un centre de détention, d'après l'ONU, qui s'alarme des conditions de milliers d'autres parqués dans trois camps. Des migrants de la Corne de l'Afrique passent par Djibouti avant d'entreprendre la périlleuse traversée en mer en direction d'Aden, dans le sud du Yémen, en guerre. De là, ils tentent généralement de se rendre dans des riches pays du Golfe à la recherche d'un travail. Certains ne survivent pas à la traversée et d'autres atterrissent dans des camps.
Au Venezuela, le chef de l'État, Nicolas Maduro, demande à l'armée de combattre ceux qu'il appelle les putschistes. C'était lors d'un discours ce jeudi au lendemain de nouvelles manifestations. Abdourahman Zia.
Nicolas Maduro, qui s'exprimait devant plusieurs milliers de soldats, a déclaré que son régime était en plein combat. Le moral doit être au maximum dans cette lutte pour désarmer tous les traîtres, tous les putschistes, a-t-il dit. La veille, le chef de l'État avait déjà assuré qu'il n'hésiterait pas à punir les responsables, selon lui, de la tentative ratée de soulèvement militaire auquel avait appelé Juan Guaido. Le chef de file de l'opposition avait revendiqué le soutien de soldats entrés en rébellion. La tentative de soulèvement militaire de mardi a provoqué des manifestations contre le président, mais dans la soirée, ce dernier a affirmé que la situation était sous contrôle. Le lendemain, à l'occasion de la fête du travail, des milliers de Vénézuéliens sont retournés dans la rue pour exiger son départ et soutenir Juan Guaido, qui est reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays.
Ici, aux États-Unis, le bras de fer entre le ministre de la Justice et les démocrates se poursuit. William Barr n'est pas venu témoigner ce jeudi devant la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants. C'était pour une audition consacrée au passage expurgé du rapport de l'enquête Robert Mueller sur le rôle de la Russie dans l'élection de novembre 2016. Le département de la Justice a dénoncé les conditions qu'il qualifie de sans précédent et d'inutiles sur le format de l'audition, notamment que les questions soit posé par des avocats de la commission. Mais pour Gerald Nadler, le président de cette commission, William Barr a peur de témoigner vu à quel point il a été malhonnête. Fin de citation, dit-il. Cela survient au lendemain d'une audition houleuse de plus de 4 heures au Sénat, au cours de laquelle l'attorney général a défendu sa gestion du rapport Mueller et essuyé des appels à la démission lancés par des élus démocrates.
Toujours aux États-Unis, le sénateur du Colorado, Michael Bennett, Bennett est venu grossir les rangs des candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020. Une vingtaine de personnalités sont d'ores et déjà entrées en lice et d'autres envisagent de le faire. Âgé de 54 ans, Michael Bennett accomplit son deuxième mandat au Sénat. Il sera toutefois l'un des candidats les moins connus à l'échelle nationale. Les primaires démocrates débuteront en février de l'année prochaine dans l'Iowa.
Julian Assange s'oppose à son extradition vers les États-Unis. La justice américaine veut poursuivre le cofondateur du site Wikileaks pour piratage informatique en raison de la publication en 2010 de centaines de milliers de documents confidentiels, dont des rapports militaires sur l'Afghanistan et l'Irak, ainsi que des notes diplomatiques. Assange s'exprimait par liaison vidéo depuis sa prison devant un tribunal londonien qui a entamé aujourd'hui l'examen de la demande américaine d'extradition.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale là ce soir.
Il est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
L'Angola devrait lancer son tout premier appel public à l'épargne cette année. Le pays établit une bourse nationale avec la privatisation de plusieurs sociétés d'État. Patricio Villar, PDG de la bourse Boudiva à Luanda, s'attend à ce que deux sociétés dont les noms n'ont pas été donnés soient introduites en bourse cette année avec un nombre plus important et non précisé pour 2020. Au Cameroun, 50 milliards de francs CFA ont été investis dans une usine de transformation de cacao à Kekem dans l'Ouest pour donner un nouvel élan à l'industrialisation du pays, rapporte la Tribune Afrique. Visant le marché mondial, la nouvelle unité a une capacité de transformer 32 000 tonnes de fèves de cacao et 25 600 tonnes de produits semi-finis. Le projet, qui permettra la création de plus de 25 000 emplois, devrait aussi accueillir une usine d'emballage. Il a bénéficié des fonds du Marocain Atijari Wafa Bank, du Camerounais Afriland First Bank et de l'assureur français AGF. Terminons avec la Côte d'Ivoire où le Conseil du Café Cacao a vendu les contrats à risque pour la saison 2018-2019 aux entreprises internationales parmi lesquelles Cargill, Sukden, Touton, Olam et Barrick Alebo. Ces sociétés contrôlent désormais 80% des contrats d'exportation contre moins de 60% deux ans plus tôt.
Il est l'heure maintenant de notre habituel tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous retrouvons Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jacques. Bonsoir à tous.
En football, ce soir les demi-finales de la Ligue Europa.
Oui, les Allemands de Eintracht Francfort reçoivent les Anglais de Chelsea. Et l'autre club de Première Ligue, Arsenal, va accueillir les Espagnols de Valence CF. Les deux rencontres se déroulent, Jacques, à la même heure, à partir de 19h, temps universel.
En Ligue des Champions, Bagassi, Liverpool n'a pas tenu hier soir face à Messi et le Barça.
Oui, le Barcelone, grâce à son efficacité et un sensationnel Lionel Messi, auteur d'un doublé, a fait un grand pas vers la finale de la Ligue des Champions en dominant sa demi-finale aller contre Liverpool 3-0 au Camp Nou. Le Barça, qui rêve d'un triplé championnat, coupe et Ligue des Champions et d'un premier titre dans l'arène des compétitions européennes depuis 2015, a été bousculé bien sûr par les Reds, mais Suarez à la 26e minute, puis Messi à la 115e et 82e minute, auteur notamment d'un but magique sur un coup franc direct, lui ont assuré un large succès avant le match retour prévu mardi à Anfield.
La Confédération africaine de football annonce l'utilisation dès les quarts de finale de la CAN 2019 de l'assistance vidéo à l'arbitrage.
Oui, selon un responsable de la Confédération africaine de football cité par Africa Top Sport, l'assistance vidéo de l'arbitrage sera utilisée dès les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 juin au 19 juillet en Égypte. Souleymane Waberi, président de la commission des arbitres de la CAF, a assuré à la presse que l'assistance vidéo ne sera utilisée ni lors de la phase de poule ni au deuxième tour de la compétition. Pour mieux les préparer à ce système, nombre d'arbitres candidats à officier les matchs de la CAN 2019 ont été formés sur l'utilisation de la technique de la VAR.
Football encore pour terminer, la République centrafricaine a un nouveau sélectionneur.
Oui Jacques, il s'agit de l'ancien international congolais Bruce Abdoulaye, selon nos confrères de Africa Top Sports, ancien joueur de Clermont Foot ou encore Bourges Personnes durant sa carrière. Abdoulaye a rangé les crampons en 2017. Abdoulaye remplace au poste de sélectionneur de Fauves le Suisse Raoul Savoy, qui a échoué dans sa mission de qualifier les fauves pour la CAN 2019.
Baga Sekoura, merci bien.
Merci Jacques.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eh bien, il est l'heure maintenant de vous proposer nos sujets magazine. Raissa Girondin et Jacques Aristide toujours avec vous dans Le Monde aujourd'hui. Merci pour votre fidélité à VOA.
Retour au Bénin, où prévaut un climat tendu après les violences post-électorales d'hier. Des groupes de jeunes partisans de l'ancien président Boni Yayi s'étaient rassemblés autour de son domicile de Cotonou pour lui témoigner leur soutien. D'après eux, la police venait arrêter leur leader, symbole de l'opposition exclue des législatives, dont les résultats définitifs étaient attendus ce jeudi. Irénée Amamongbo fait le point avec le docteur Gad Adel Didé. Il est professeur de philosophie politique à l'université d'Abomey-Calavi.
La tension est en train de s'apaiser. Le calme est en train de revenir, même si il y a encore quelques attroupements quand même dans les quartiers sensibles de Cotonou.
Comment expliquez-vous cette situation où le Bénin se retrouve aujourd'hui dans une situation de crise après des élections législatives?
Raison à cela, mais je crois que la raison immédiate, c'est l'organisation des élections législatives exclusives sur fond de l'égalité constitutionnelle dans un climat sociopolitique tendu. Et ce climat sociopolitique tendu est surtout marqué par le refus de rechercher le consensus. Or, ce qui a fait juste là le génie du peuple béninois et de sa classe politique, je crois bien que c'est la volonté d'en arriver à un consensus à chaque fois que notre démocratie est confrontée à une maladie mortelle. Mais il y a une autre raison fondamentale selon nous, c'est l'absence de leader charismatique capable d'imposer le dialogue franc et sincère au camp antagoniste, la mouvance et l'opposition.
Le président de la République avait tendu la main à l'opposition récemment à rencontrer plusieurs leaders de l'opposition.
Oui, mais ce n'était pas un dialogue franc et sincère. La ruse l'a emporté sur le dialogue franc et sincère qui a toujours marqué les Béninois. On remarquait plutôt une volonté délibérée de tendre la main et en même temps de tordre le cou à la recherche du consensus.
Alors, Monsieur Didé, les présidents Soglo et Yayi ont donné il y a quelques jours un ultimatum de 24 heures au président Talon pour non seulement annuler les élections, mais aussi présenter des excuses au peuple. Est-ce à votre avis une bonne démarche?
Je crois que la démarche n'est pas saluée. L'ultimatum lancé par ces anciens chefs d'État, pour moi, n'est pas la solution appropriée. Il faudrait ramener la balle à terre plutôt et chercher des portes de sortie honorables. On aurait pu lui demander de chercher les voies d'un dialogue inclusif pour permettre aux uns et aux autres de sortir honorablement de cette crise.
Parlons justement de portes de sortie. Quelles sont les possibilités d'une éventuelle sortie de crise aujourd'hui?
Ce qui est urgent, c'est l'organisation d'un dialogue inclusif entre leaders de l'opposition et de la mouvance pour en arriver à un consensus. Mais il faudrait aussi que la communauté internationale puisse faire pression sur ces différents leaders pour les amener à abandonner les attitudes extrémistes, les attitudes va-t-en-guerre. Mais je pense que le premier qui a une responsabilité énorme dans cette crise, c'est le chef de l'État, parce que c'est lui qui est l'élu de la nation et c'est lui qui doit gouverner, trouver les voies et moyens pour qu'il y ait la paix chez lui.
Le professeur Gad Abel Didé était en ligne de Cotonou.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
mini-tournée sahélienne de la chancelière allemande Angela Merkel achève aujourd'hui sa visite entamée hier à Ouagadougou. Madame Merkel a beaucoup parlé de la situation sécuritaire et de la coopération entre les deux pays dans ce domaine. Le séjour de la chancelière dans la capitale burkinabé coïncidait avec un sommet des chefs d'État du G5 Sahel, comme nous le rapporte notre correspondant Issa Napon.
Le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Allemagne et le Burkina Faso et la situation sécuritaire dans la sous-région sont au menu de cette visite de la chancelière allemande. Angela Merkel marque ainsi son intérêt pour la question du terrorisme avec sa participation à ce sommet extraordinaire du G5 Sahel. Avec leur homologue allemande, les présidents du Tchad, du Mali, du Niger, de la Mauritanie et du Burkina Faso ont passé en revue la situation en Libye, au Soudan et en Algérie avant de faire le point sur la lutte contre le terrorisme, notamment l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Des sacrifices ont été déjà consentis, note le président du Faso. Pour autant, ils ne peuvent produire des résultats tant que certaines questions d'intérêt comme la Libye ne sont pas réglées, prévient Roch Kabore.
Au-delà des efforts que nous sommes en train de fournir, si les questions comme la question libyenne ne sont pas résolues, ce sera des efforts qui seront vains. C'est une zone de trafic de tous ordres. Nous avons demandé aux grandes puissances, puisque c'est eux qui ont déstabilisé la Libye et créé cette situation, de prendre les responsabilités pour régler cette question. L'Europe doit avoir une position commune sur la question qui concerne la Libye, de manière à ce que nous puissions trouver une solution définitive qui permettent de fermer l'approvisionnement de ces groupes terroristes.
Le président du Faso a expliqué la nécessité de renforcer au plus vite les questions de développement afin que les populations du Sahel le constatent sur le terrain. Un avis partagé par la chancelière allemande. Il faut même aller vite, indique Angela Merkel.
Nous, en Europe, nous devons être plus réactifs, devons agir plus rapidement. Beaucoup trop de projets de développement ne peuvent pas être mis en œuvre, ce qui fait que dans le domaine de la coopération pour le développement, nous devons réfléchir comment investir davantage. L'autorité du bassin du Niger bénéficiera encore fort de 60 millions d'euros supplémentaires, mais nous devons réunir nos efforts dans son ensemble. Et les terroristes agissent rapidement. C'est pour cela que nous devons encore réagir davantage rapidement pour ne pas être vaincus. Donc, solution politique en Libye, c'est d'une importance primordiale, car la Libye, c'est toujours un taureau de nouvelles menaces terroristes.
Les présidents du G5 Sahel ont apprécié les discussions avec la chancelière allemande, auprès de qui le président du Faso a obtenu la formation de militaires burkinabés et la dotation de l'armée en équipement. L'occasion pour le président Kabore de rappeler l'excellence de la coopération germano-burkinabé.
Il est bon de rappeler que l'Allemagne intervient au Burkina Faso dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de l'assainissement, de la décentralisation et de la promotion des droits de l'enfant et de la gouvernance. J'ai également présenté à mon hôte le point de la situation humanitaire. L'Allemagne a annoncé une aide de 46 millions d'euros qui devait nous permettre de mieux prendre en charge la question sécuritaire et conduire des actions qui aideront à renforcer la résilience des populations dans ces zones.
Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
L'Afrique du Sud tient le 8 mai des élections législatives. Le parti qui obtiendra la majorité choisira le futur président. Ces dernières années, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, a perdu du terrain après de nombreux scandales de corruption éclaboussant Jacob Zuma. Est-ce que ces scandales à répétition auront de l'effet sur ce scrutin? Idriss Fall, adjoint à Cape Town, Denis Kadima, directeur exécutif de l'Institut électoral pour le développement durable en Afrique.
Absolument, ces scandales auront un effet comme ils avaient déjà eu un effet en 2016 lors des élections municipales où l'ANC avait perdu le pourcentage de support. 5 ans plus tôt, l'ANC avait obtenu 62% dans les élections municipales, mais en 2016, ils étaient à 53%. Il est clairement établi que c'est à cause justement de tous ces problèmes de corruption qui caractérisaient le pouvoir de Jacob Zuma.
Même l'ANC ne risque pas de perdre aux législatives parce que le vote, il est plutôt ethnique ou noir, si j'ose dire.
En fait, d'après les projections qui sont faites, il est clair que l'ANC va gagner. Il n'y a pas crainte qu'il perde. Mais la question qu'on se pose, c'est à quel pourcentage, ils vont obtenir quelle portion. Est-ce que ça sera encore une baisse? Les gens s'attendent effectivement qu'il y ait une baisse, pas nécessairement en faveur de l'Alliance démocratique, certainement ils peuvent en bénéficier, mais aussi de IFF, donc il s'appelle le combattant pour la liberté économique.
De Julius Malema, le bouillant Julius Malema.
Voilà, en fait c'est lui qui est vraiment le vrai compétiteur, parce que lui... Et l'ANC partage l'électorat noir. Vous parliez du vote ethnique. Effectivement, à ce niveau-là, Malema peut réduire la marge de l'ANC. Mais d'autre part, le deuxième grand parti d'opposition, donc l'Alliance démocratique, a aussi eu des problèmes assez sérieux avec son plus grand leader, si je peux parler en termes des races métisses. Celle-là a été, elle a traîné le parti au tribunal à cause de certains désagréments entre eux, et ça a fait beaucoup de bruit, et ça, elle a même quitté le parti pour former un autre parti qui s'appelle Good Party, donc si je dois traduire aussi, c'est Bon Parti. Ça aussi, ça va affecter le deuxième plus grand parti, et tout cela rend les élections de la semaine prochaine très complexe à prédire.
Mais malgré tout, on est sûr que M. Cyril Ramaphosa, à l'arrivée, va redevenir président de l'Afrique du Sud.
Absolument. Il sera président de l'Afrique du Sud. L'ANC a encore beaucoup de popularité. Vous l'avez bien dit, dans les milieux les plus pauvres, il y a le système très socialiste qu'ils ont mis en place où on donne des subsides aux plus pauvres, les femmes enceintes jusqu'à un certain âge. On essaie de construire des maisons pour les plus pauvres, les plus démunis. Et tout ça, ça aura un impact. Mais n'oubliez pas aussi le poids de l'apartheid. Bien que c'est 25 ans après les premières élections, les gens ont encore en mémoire le système d'apartheid. Et comme l'ANC, c'est le parti qui les a libérés de l'apartheid, il y a encore une grande sympathie vis-à-vis de ce parti, malgré tout ce qu'il y a comme bévue, particulièrement sous Zuma.
Denis Kadima, directeur exécutif de l'Institut électoral pour le développement durable en Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Une petite page culture pour terminer. Les membres de la communauté Soninké, très présente au Mali, au Sénégal, en Gambie, mais aussi en Mauritanie, se sont réunis le week-end dernier à Saint-Denis, en France, pour célébrer les 40 ans de l'Association pour la promotion de la langue et de la culture Soninké. Pour en parler, Ekiabadou, adjoint à Paris, Awa Kone, adjointe au maire de la commune de Pré-Saint-Gervais.
Alors les 40 ans, c'était un moment qui était très, très émouvant. Et ce qu'il y a de bien avec la communauté soninké, c'est cette multiculturalité, parce qu'il n'y avait pas que des soninké qui étaient venus. Il y avait aussi l'intergénération. Ça, c'est extraordinaire quand on a toutes ces femmes et tous ces hommes qui étaient présents, parce qu'il y avait des stands à l'extérieur donc du lieu où il y avait des conférences, où il y avait des jeunes chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise beaucoup plus anciens, des personnes qui sont dans le domaine de la littérature, dans le domaine de l'enseignement. Ça donne une dynamique positive, et ça donne aussi l'envie aux nouvelles générations de se lancer dans l'écriture. Donc on sort vraiment de l'oralité pour aller plus dans quelque chose de plus palpable, et donc c'est que du positif.
Début mars, à Bamako, il y a eu la présentation de 3 ouvrages en soninké. Il y a eu cette mobilisation des personnes plus anciennes, plus âgées que vous, qui se sont vraiment enorgueillies, en tout cas qui étaient très fières de voir la solidarité soninké. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, cette solidarité qu'il y a au sein de votre communauté, au-delà même du Mali, même dans les autres pays?
C'est aussi la raison pour laquelle, depuis 2011 ou 2012, il y a le Festival international soninké. Le soninké, quel que soit l'endroit où il est, il doit être solidaire avec les siens, mais il doit aussi être solidaire avec tous les autres. Il doit s'intégrer dans les sociétés dans lesquelles il vit, tout en étant très attaché à sa culture, très attaché aussi à sa langue, parce que pour nous, c'est un vecteur qui est extrêmement important pour faire passer des messages, pour recevoir aussi, pour donner. Donc le soninké, qu'il soit en France, qu'il soit aux États-Unis ou quel que soit l'endroit où il est dans le monde, c'est sa culture qui va le guider. Et oui, effectivement, quand on s'enorgueillit, c'est parce qu'on réussit à promouvoir notre culture, ce que l'on est. On ne dénigre pas, parce que les soninké, ce sont des tunkaranko, ce sont des voyageurs qui sont partout dans le monde. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine, ils sont au Japon, ils sont en Afrique du Sud. On dit même qu'il est parti jusqu'à dans la Lune, car Cheikh Modibo Dera, qui a travaillé avec les services aéronautiques américains, a travaillé sur des projets. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a même des soninké sur la Lune. Donc oui, on s'enorgueillit, on en est fier, et en même temps, on est parfaitement intégré partout où on va.
Alors, est-ce que c'est dans cet esprit-là que vous avez aussi envie de créer cette académie?
Au niveau de l'académie, donc le projet avance. Ce qu'il y a de bien, c'est que grâce au Festival international Soninké, on peut non seulement toucher les Soninké partout dans le monde, mais également les partenaires publics, les partenaires privés des différents pays où il y a cette communauté. Cette académie-là, elle n'est pas communautaire, elle n'est pas individualiste. Elle est faite effectivement pour continuer la promotion de cette culture-là, mais elle est là aussi pour faire émerger des talents, émerger des savoir-faire et vraiment s'intégrer. Là, cette académie devrait se faire normalement en France, dans la région parisienne.
La franco-malienne à Wakoni.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Mise en onde assurée par Cheikh Thiro. Michael Dubinsky était à la technique. Et voilà.